Nous sommes en compagnie de Roger Maurice Benet et on parle de cette projection, j'ose pas la qualifier de science-fiction, on pourrait utiliser les deux d'ailleurs, science et fiction, il y a de la science et il y a de la fiction, mais à 100 000 ans en tout cas pour l'avenir de l'humanité. Vous avez utilisé une image qui est celle du vaisseau spatial de l'humanité avec un équipage, des ressources, une destination, heureusement qu'il n'y a sans doute pas de bouton pour pouvoir changer la destination, parce que là, il y aurait sans doute beaucoup de milliards de personnes qui voudraient aller dans un endroit complètement différent. Mais est-ce que cette vision est née, pour rejoindre le domaine spatial, finalement, de cette première image de la Terre en 1968, quand les hommes d'Apollo tournaient autour de la Lune, où apparaît finalement la Terre toute petite, fragile, toute bleue, enfin, on sent qu'elle est finie, limitée, et comme disait Alfred Sauvy, à ce moment-là, on prend conscience de la dimension environnementale du monde dans lequel nous vivons. Est-ce que cette image-là vous a inspiré ?
Cette image-là nous a inspiré, mais nous ne l'avons pas utilisée dans le livre. Nous avons utilisé la plus récente des images semblables, qui a été celle obtenu par le satellite japonais qui a été envoyé vers la Lune et qui a fait des images d'une qualité nettement supérieure, peut-être moins poétique. Mais manifestement, nous avons été fortement influencés par cette vision de notre Terre extrêmement faible, également influencés par la vision de la Terre qu'on a quand on l'observe de l'orbite de Neptune, comme l'avait proposé Carl Sagan aux ingénieurs de la NASA. Prenez des photos de la Terre quand on en est loin pour voir à quoi elle ressemble. C'est évidemment un petit point bleu très pâle.
Ouais, ça rend modeste.
Ça rend modeste et ça rend aussi, ça vous fait prendre conscience de la fragilité qui est la nôtre sur ce petit point pâle, lumineux, éclairé par le soleil, qui n'a même pas assez d'énergie pour être lumineux lui-même. Donc ceci nous a effectivement fortement influencé. Vous disiez qu'on fait de la science et de la fiction. On fait de la science en projection qualitative et quantique sur les données qu'il faudrait disposer dans mille siècles pour pouvoir continuer à survivre. La fiction, je crains que les auteurs de science-fiction, quand ils vont lire ce livre, vont sortir leur mitraillette, parce que nous sommes en train de la détruire complètement. La fiction des années 60, juste après le lancement de Sputnik 1, c'était l'envolée vers la Lune qui a eu lieu, l'envolée vers Mars qui n'a pas encore eu lieu, et Dieu sait quand elle aura lieu. Après, c'était l'envolée sur des objets comme Europa, autour de Jupiter, et puis maintenant on pense sérieusement à Titan, pas pour l'habiter, pour y envoyer des sondes. Et puis ça a été aussi cette fantastique idée de transformer Mars, Vénus en planète habitable. Alors ça, on tord le cou à ces idées. Le terraforming de Vénus et de Mars, même Carl Sagan qui avait inventé le terme et qu'il avait aussi utilisé pour voir si Vénus serait transformable en une planète exactement comme la Terre, qui est vraiment une des planètes sœurs de la Terre. Vraiment, c'est la même masse, la même dimension, etc. Mais hélas, un petit peu plus près du Soleil, et ça a eu des effets catastrophiques sur le climat de cette planète. Il aurait fallu envoyer des miroirs pour empêcher le Soleil de pénétrer dans l'atmosphère. Des choses qui, regardez le coût de la station spatiale, l'entretien que demande une station spatiale aujourd'hui, imaginez des milliers et des milliers d'engins de cette taille qu'il faut ajuster constamment pour être sûr qu'ils accomplissent leurs fonctions. En plus, pour terraformer ces objets, il faut à peu près 100 000 ans. Il faut prendre la décision aujourd'hui, dans le contexte économique actuel. Vous vous imaginez, M. Sarkozy disant « je vais déployer un bouclier thermique de la Terre dans 100 000 ans ». C'est difficile à imaginer, sérieusement.
On dirait qu'il veut avoir plus de mandats, c'est ça?
Voilà. Ça dépasse quand même l'espérance de vie qu'on peut lui prêter aujourd'hui, même si elle est longue.
Plus longue. Comment voyez-vous dans ce contexte-là? Parce que vous le brossez bien, mais un Stephen Hawking, par exemple, astrophysicien anglais bien connu, qui passe son temps à déclarer que finalement les menaces sont tellement grandes que la seule solution c'est de quitter la Terre et de trouver une planète de rechange, de partir, la destinée de l'homme, c'est des grandes déclarations, c'est évidemment à l'extérieur, puisque nous sommes trop nombreux, les ressources sont limitées, et puis en plus on va la casser. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Pas beaucoup de respect. Pas beaucoup de respect parce que. Mais bon, j'ai le respect d'un grand théoricien, de quelqu'un qui fait avancer des idées. Mais évidemment, c'est un théoricien. Il n'a jamais mis les mains dans le cambouis, si je peux dire un peu vulgairement. Il n'a pas vu ce qu'il fallait faire pour pouvoir réaliser ce qu'il propose de faire. Pour en revenir un peu à la fiction des années 60, un professeur de physique très connu à l'université de Princeton, M. Gerald O'Neill, avait inventé des cités spatiales. Ces cités spatiales étaient des espèces de biosphères, le paradis, pas sur Terre, mais en dehors de la Terre, dans lequel il voyait en 1986, l'année de l'accident de la navette Challenger, à peu près entre 20 000 et 1 million d'astronautes dans l'espace, dans ces cités spatiales. Et en 2050, il imaginait que la population de la Terre aurait atteint à peu près 20 milliards d'habitants, elle en aura atteint à peu près 10. 16 milliards de ses habitants seraient dans l'espace et 4 milliards resteraient sur Terre. Comme ça, on résolvait le problème de la surpopulation sur Terre. Le résultat de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, comme je le disais, on a 5 astronautes dans l'espace, on n'en a pas des millions, on n'en a que 5, et que la prospective pour en envoyer un peu plus est complètement effacée dans le domaine de la fiction. Mmh. On a essayé de recréer sur Terre les cités spatiales de Gerald O'Neill, ça s'appelait la biosphère, il y en a eu deux, la première qui a échoué, la deuxième qui a duré 2 ans, qui a englouté des quantités d'argent absolument effarante, dont la principale occupation des occupants était d'assurer leur survie. Et le grand succès de cette opération, qui a dû s'arrêter au bout de 2 ans parce que ça coûtait trop cher, c'était que les gens sont sortis apparemment en bonne santé et en continuant à se parler les uns aux autres. Ce qui est une condition importante dans une capsule spatiale. Dans une ville, c'est évidemment pas le cas.
Est-ce que ce que vous nous expliquez là et qu'on suit très très bien, finalement, c'est pas le retour de bâton d'une certaine image qui a été donnée de l'espace. Alors je vais pas vous faire la litanie, mais c'est ça commence avec Tsiolkovsky qui dit la Terre est le berceau de l'humanité, on ne pourra pas toujours rester au berceau. C'est le mythe américain de la nouvelle frontière, comme quoi finalement c'est dans les gènes, disait-il, de l'homme que d'aller toujours plus loin, etc. Enfin, c'est l'idée que l'expansion est naturelle et que l'espace est le domaine naturel de l'expansion.
Tout à fait, on se pose cette question, on la regarde de façon objective, est-ce que c'est possible, et est-ce qu'on va résoudre le problème que nous nous posons, est-ce que nous pouvons survivre 100 000 ans, est-ce qu'on peut survivre 100 000 ans plus facilement dans l'espace que sur la Terre, est-ce que les conditions qu'on va se donner pour vivre dans l'espace sont meilleures que celles qui existent même aujourd'hui dans une Terre dégradée sur notre planète? La réponse est non. L'exemple vient de ce qui se passe en ce moment dans la station spatiale. La plupart des activités des astronautes, comme dans l'exemple que je donnais de biosphère, c'est d'assurer leur survie. Bon, c'est tout à fait normal que l'humanité assure sa survie sur le vaisseau Terre, mais c'est pas 5 astronautes, c'est des milliards. Et donc ça, c'est un objectif qui atteint tout le monde. D'ailleurs, si on envoie 5 astronautes dans l'espace, c'est toujours une bagarre énorme pour savoir qui va y aller. Donc, qui va décider si on envoie l'humanité habiter Mars ou Vénus ou d'autres objets, qui va le décider? Admettons qu'on puisse le décider. Est-ce que c'est suffisant? On repousse un petit peu le problème. Les ressources de Mars sont nettement moins abondantes que celles de la Terre. Le volume est plus petit. Donc, c'est fait à peu près au même moment. Donc, même s'il y a quelques différences dans la composition chimique, les ressources globales sont différentes et plus pauvres, manifestement. Donc, on repousse le problème. Il faudra beaucoup d'énergie pour entretenir Mars et la laisser vie hospitalière pour l'humanité. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Alors c'est là que je pense que Stephen Hawking a oublié Einstein, parce que qui aujourd'hui est capable de dire on va construire un vaisseau qui va à la vitesse de la lumière? C'est pratiquement impossible. Et donc aujourd'hui, si on va avec un vaisseau qui a la vitesse maximum que l'on ait pu atteindre avec les moyens actuels de l'espace, vers Proxima du Centaure, à 4 années-lumière, on y sera dans 70 000 ans. Donc c'est presque les 100 000 ans que nous couvrons. Donc finalement, ça sort des limites de l'épure, ça ne nous intéresse pas, si vous voulez.
Pour rester et finir sur l'homme dans l'espace, qu'est-ce qui est raisonnable dans cette fourchette de 100 000 ans? Est-ce que c'est l'habitation, l'exploitation scientifique de base sur la Lune? Est-ce que c'est des expéditions scientifiques, encore une fois, pour aller collecter quelques échantillons sur Mars? N'en déplaise à certains. Enfin, qu'est-ce qui est logique dans l'entreprise de gestion d'une planète qui s'appelle la Terre, avec une curiosité naturelle sur sa création, son environnement?
C'est une très bonne question, je vais y répondre. Je vais simplement entourer ça d'attendu. Vous parliez de Tsiolkovsky et de sa phrase célèbre, « L'homme est né dans le berceau de la Terre, mais il n'est pas fait rester au berceau ». Il l'a montré en envoyant Sputnik et en voyant tous les satellites qu'on a envoyés depuis 1957 dans l'espace. De dire que nous ne voyons pas le futur de l'homme dans l'espace, soit sur Mars, soit sur une autre planète, ne veut pas dire que nous ne croyons pas en les vertus de l'espace pour assurer le futur de l'humanité. Au contraire, c'est un des messages forts que nous avons tenté de transmettre dans ce document, dans ce livre, c'est de dire aujourd'hui nous sommes une population globale sur une petite planète, les moyens spatiaux qui nous donnent la vision globale de cette petite planète sont à même de nous donner une information homogène, sérieuse, scientifiquement corrélable avec d'autres phénomènes dont nous ne nous disposions pas il y a 50 ans. Donc nous sommes au début d'une ère où la gestion de la planète, du vaisseau lui-même, du vaisseau Terre, sera essentiellement faite avec les données de l'espace. Pas seulement celle-là. Il y a évidemment des mesures importantes à faire sur Terre pour connaître l'évolution du climat, par exemple, l'échauffement de la mer. Et l'espace ne vous permet pas de regarder le fond de la mer. En tout cas, ces paramètres physiques intéressants pour le climat. Donc l'espace, dans ce livre, a une place royale, dans le sens que c'est l'outil indispensable pour gérer proprement à la fois les conditions physiques de la planète et ses ressources. Mais pas seulement pour ça. Si on regarde depuis 1957, la révolution qu'a créée la conquête de l'espace, pour l'astronomie, pour la science et la connaissance, c'est extraordinaire. Enfin, on parle aujourd'hui de volcans actifs, de cryovolcans sur Titan. On parle de mers et de lacs de méthane sur Titan. On les observe. On parle d'un océan sur Europa. Il y a de forts indices que cet océan existe. On découvre des trous noirs, veux-tu, en voilà. Ça n'existait pas même il y a 20 ans, cette astronomie-là. L'espace y a joué un rôle essentiel parce qu'il donne accès à des lumières qui sont effectivement celles qui permettent de détecter la présence de ces trous noirs. Enfin, il y a eu une révolution gigantesque dans toute notre connaissance. La climatologie, l'histoire du climat de la Terre, etc., ont été fortement influencées aujourd'hui par des données spatiales qui vous permettent de mesurer avec le même instrument ce qui se passe au sud et ce qui se passe au nord, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc l'espace est devenu essentiel pour la gestion planétaire et pour la connaissance scientifique. Et comme vous l'avez pu le constater, la découverte scientifique s'enrichit de nouvelles avancées, mais ces avancées posent de nouvelles questions. Matière noire, qu'est-ce que c'était il y a 50 ans? Bon, on commençait peut-être à imaginer qu'il y avait une matière noire, mais l'énergie noire n'existait pas. Il a fallu attendre les observations très précises des nouveaux télescopes sur Terre et dans l'espace. Donc la connaissance est en progression complète, et la curiosité humaine, le rêve humain est alimenté de façon très riche par les données qui viennent de l'espace. Et donc, tant pour la connaissance que pour la gestion de nos conditions de vie sur Terre, l'espace est un élément essentiel. Et de ce côté-là, je pense que Tsiolkovsky avait peut-être pas donné cette réponse-là à son idée, mais nous l'aidons à lui donner cette réponse-là.
Alors, la part politique de l'espace, on la voit encore aujourd'hui, et là, je dirais, c'est à court terme, c'est la Lune, dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce de bouée autour de laquelle il faut aller tourner, puis se poser aujourd'hui pour démontrer qu'on est capable de le faire, qui est un enjeu même à travers la crise de démonstration de puissance. Est-ce que dans l'idée d'une vision globale, et toujours pour revenir à ces mille siècles, est-ce que c'est un endroit sur lequel on peut aller s'établir, observer la Terre de l'extérieur? Est-ce que ça prend un sens autre que le sens purement démonstratif de la puissance d'une nation d'être capable de le réaliser?
Je pense que ce sens démonstratif de l'utilisation de la Lune comme vitrine de la puissance d'un pays, elle a été faite, c'est démontré. Les Chinois vont peut-être y aller pour les mêmes raisons, mais c'est à peu près dans la même lignée. Ce que la précédente administration américaine avait envisagé de faire sur la Lune, c'était bien plus que cela. C'était le conseiller scientifique du président Bush disait « Nous n'irons pas sur la Lune pour des raisons scientifiques, mais pour des raisons économiques et industrielles, c'est-à-dire pour en extraire les ressources. » Ok, Allez sur la Lune, extrayez toutes les ressources, vous repousserez de quelques siècles les chances de survie de la planète Terre. Mais quand vous aurez épuisé les ressources de la Lune, à quel prix d'ailleurs ? Parce que les conditions économiques du transport de matériaux lunaires vers la Terre sont gigantesques.
Quelles ressources qui plus est ?
Et quelles ressources qui plus est ? Alors, il y a un astronaute qui a été l'un des derniers à fouler le sol de la Lune, qui a eu la chance, et peut-être pour nous le malheur, d'être géophysicien, et qui s'est intéressé beaucoup à ce que contenait le sol de la Lune, et en particulier Jacques Schmitt, à l'hélium-3. L'hélium-3, c'est un isotope de l'hélium qui, s'il peut être utilisé dans des réactions de fusion nucléaire qu'on n'a pas encore maîtrisées aujourd'hui, puisqu'elle démarre à l'état expérimental dans le sud de la France, à Cadarache, avec le projet ITER, si on peut utiliser l'hélium-3 dans des réactions nucléaires qui demandent des températures plus élevées que celles qu'on est en train de mettre en œuvre maintenant à Cadarache, on assure l'avenir de la planète pendant de nombreuses années. Ces nombreuses années, quand on fait le calcul de ce que peut contenir le sous-sol de la Lune en hélium-3, ça ne va pas très loin. C'est quelques dizaines d'années ou quelques centaines d'années au maximum. Donc on repousse le problème. Et vous pouvez faire le même calcul sur Mars. Vous arriverez à repousser peut-être le problème un petit peu. La Lune, revenons à la Lune. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de la Lune ? D'abord, c'est un bel objet, moi je trouve, c'est un objet mythique. Nous avons, il y a quelques années, envisagé de faire une étude sur les capacités scientifiques d'observation de la Lune, et ce qu'on pouvait faire avec la Lune du point de vue scientifique. Alors on peut faire de la science sur la Lune, on peut faire la science de la Lune, on peut faire de la science à partir de la Lune. La science à partir de la Lune, c'est-à-dire l'observation des astres, se fait presque aussi bien en n'étant pas sur la Lune, puisque sur la Lune on a une gravité qui est faible par rapport à la Terre, 6 fois plus faible, mais quand même les télescopes commence à fléchir sous l'effet de cette gravité. Donc les effets qu'on a sur Terre, mécaniques, dus à la gravité, on les a aussi sur la Lune. On a une atmosphère résiduelle qui, plus il y aura d'activité sur la Lune, va se polluer. Donc la pollution qu'on n'a pas dans l'espace, mais qu'on a sur Terre, on va la recréer sur la Lune. Est-ce que c'est un avantage ? Non. On avait regardé qu'en fin de compte, ce qui était le plus intéressant, c'était de se mettre sur la face cachée de la Lune pour observer les étoiles, les galaxies, dans le domaine de la radioastronomie, puisque là, on a un écran très opaque, qui est le volume de la Lune. On éclipse complètement les émissions radiophoniques, télévisées de la Terre, les téléphones portables, et on a un environnement radioélectrique tout à fait parfait. Alors ça, c'est intéressant. Mais est-ce que la construction d'un télescope sur la Lune ne va pas se heurter à des difficultés majeures ? Les astronautes qui sont revenus des missions Apollo ont tous décrit le problème de la poussière lunaire comme une catastrophe. Ça rentre partout, y compris dans les combinaisons spatiales, ça se colle sur tous les équipements, c'est une plaie. Et donc c'est un des problèmes majeurs de ce que, à quoi vont se confronter les missions lunaires futures, c'est celui de la poussière. Et comme la gravité de la Lune est très faible, vous donnez un coup de pied dans la poussière, la poussière peut rester en orbite et se mettre en orbite parce qu'il n'y a pas beaucoup de besoin de... Il faut un grand coup de pied évidemment, mais il n'y a pas besoin de beaucoup d'énergie pour mettre quelque chose en orbite autour de la Lune. Est-ce qu'on peut faire de la science de la Lune ? Alors là, oui, parce que la science de la Lune, c'est la science de la Terre aussi, c'est la science du système solaire. La Lune, c'est apparemment le fruit d'un bombardement catastrophique de la Terre au tout début de son existence par un bolide de la taille de Mars. C'est une hypothèse, c'est un modèle qui explique beaucoup de choses. C'est intéressant de le confirmer, ce modèle, et bon, c'est déjà un phénomène important à regarder. La composition de la Lune, est-ce qu'elle est différente de celle de la Terre ? En surface, c'est à peu près la même, ce qui donne effectivement beaucoup de poids à cette hypothèse du choc catastrophique dont je parlais. Et puis aussi, on peut regarder s'il y a des choses plus précieuses sur la Lune que sur la Terre, mais vraisemblablement dans les mêmes proportions. Nous sommes tous issus de la même nébuleuse, si je peux dire, et donc il n'y a pas de raison qu'il y ait des miracles de cette nature-là. Observer la Terre de la Lune, c'est une idée qui a été fortement poussée, et c'est pas une mauvaise idée. Maintenant, on observe la Terre aujourd'hui de toutes les orbites, que ce soit les orbites basses pour faire des images à haute résolution pour des besoins civils ou militaires, ou de défense civile, que ce soit pour les télécommunications, la météorologie, l'orbite géostationnaire, et évidemment pour tout ce qui concerne l'environnement électromagnétique de la Terre, des sondes en orbite jusqu'à l'orbite de la Lune.
Tout cela étant posé, y a-t-il un avenir de l'homme dans l'espace ?
Alors, c'est une question qui vaut ou son pesant d'astronaute, un avenir de l'homme dans l'espace, la réponse est... Nous sommes dans l'espace, nous sommes sur la Terre, nous sommes sur le vaisseau spatial Terre. Et c'est cet espace-là qui nous intéresse, et cet avenir-là qui nous intéresse. Car si vous dites, est-ce que l'homme va pouvoir continuer à subsister dans l'espace, l'humanité subsister dans l'espace, je n'y crois pas, nous n'y croyons pas. Bon, c'est une forte conviction qui nous anime, c'est de ce côté-là que nous sortons d'un peu de la fiction. En revanche, est-ce qu'il a une utilité de l'homme dans l'espace? La réponse est oui. Pour effectivement assurer la survie des instruments qu'on envoie dans l'espace, comme par exemple l'exemple magnifique du télescope spatial Hubble, ou pour la caractérisation des astéroïdes. Je pense que de ce côté-là, les agences spatiales n'ont pas été très inventives. Les astéroïdes sont des objets faciles à accéder avec les moyens spatiaux. Ils sont mystérieux parce qu'ils sont petits et qu'on n'arrive pas bien à savoir ce qu'il y a dessus. Et si c'est des sacs de plâtre ou de gravats, ou si ce sont des morceaux de roc métallique. Et évidemment, s'il y en a un qui nous menace, ça serait intéressant de savoir si... En envoyant quelque chose dessus, on ne va pas créer une multitude de petits astéroïdes, ou bien on va avoir finalement rien du tout, aucun effet. Donc ça, ce sont des objets sur lesquels l'homme peut se poser et faire des études beaucoup plus fines qu'un robot ne pourrait le faire. Donc de ce côté-là, il y a un rôle pour l'homme dans l'espace, mais le futur de l'homme dans l'espace, il est sur la Terre.